volume présente La clique dorée de Émile Gaborio, lu par François Nuitens. Chapitre 1er. S'il est à Paris une maison bien tenue et d'apparence engageante, c'est à coup sûr celle qui porte le numéro 23 de la rue Grange-Batelière. Dès le seuil éclate et reluit une propreté hollandaise, méticuleuse, jalouse, presque ridicule en ses recherches. Les passants se feraient la barbe dans les cuivres de la porte cochère. Les dalles polies au grès étincellent. La pomme de l'escalier resplendit. Dans le vestibule, trois ou quatre écriteaux révèlent le caractère du propriétaire et rappellent incessamment les locataires au respect dû au bien d'autrui, alors même qu'on en paie trop chèrement la jouissance. « Essuyez vos pieds, s'il vous plaît », disent ces écriteaux aux allants et venants. « Il est défendu de cracher dans l'escalier. L'accès de la maison est interdit aux chiens. » Cependant, cet immeuble tant soigné jouissait dans le quartier du plus fâcheux renom. Que s'y passait-il de pire qu'ailleurs, qu'au numéro 21 par exemple, ou au numéro 25? Rien, très probablement, mais les maisons comme les gens ont leur destinée. Au premier étage avaient planté leur tente deux familles de rentiers, gens paisibles s'il en fut, aussi simples de mœurs que d'esprit. Un receveur de rente, quelque peu courtier marron, avait au deuxième son appartement et ses bureaux. Le troisième était loué à un homme fort riche, un baron, disait-on, qui n'y faisait que de rares et courtes apparitions, préférant à ce qu'il prétendait le séjour de ses terres de Saintonge. Un brocanteur, on l'appelait le père Ravinet, encore qu'il n'eût qu'une cinquantaine d'années, moitié marchand de meubles et de curiosités, moitié marchand à la toilette, occupait tout le quatrième, où il entassait les 1000 objets de ses commerces divers qu'il achetait à l'hôtel des ventes. Au cinquième étage, enfin, divisé en quantité de chambres et de cabinets, demeuraient des ménages peu aisés ou des employés qui, presque tous, décampaient dès l'aurore pour ne reparaître que le soir le plus tard possible. Le deuxième corps de logis, desservi par l'escalier de service, était peut-être moins honorablement habité, mais les petits logements sont si difficiles à louer. Quoi qu'il en soit, il rejaillissait quelque chose de la mauvaise renommée de la maison sur tous les locataires. Pas un n'eût trouvé seulement 100 sous de crédit chez les fournisseurs du quartier. Mais les plus compromis, à tort ou à raison, étaient les concierges, le sieur Chevassat et son épouse. Leurs collègues de la rue les évitaient, et ils couraient à leurs propos nombre d'histoires des moins édifiantes. Le sieur Chevassat avait de quoi, pensait-on, mais on l'accusait de prêter ses écus à la petite semaine et d'en tirer jusqu'à 100% par mois. Il était encore, assurait-on, l'homme de paille de deux de ses locataires, le brocanteur et le receveur de rente, et se chargeait pour leur compte de l'exécution des pauvres débiteurs en retard. Les imputations dont on chargeait la Chevassat étaient bien autrement graves. On la garantissait prête à tout pour de l'argent et habituée à favoriser ou même à provoquer la mauvaise conduite des femmes qui habitaient sa maison. Les Chevassat, ajoutait-on, avaient été établis autrefois au faubourg Saint-Honoré et y avaient fait de mauvaises affaires. On comptait aussi qu'ils avaient un fils nommé Justin, beau garçon de 35 ans lancé dans le plus grand monde, qu'ils adoraient bien qu'il rougît d'eux et les méprisât, et qui venait les visiter de nuit quand il avait besoin d'argent. Personne, il est vrai, ne le connaissait, ce fils. Personne jamais ne l'avait vu. Les Chevassat, eux, haussaient les épaules, soucieux seulement de bien vivre, disant qu'on serait fou de s'inquiéter de l'opinion du monde, quand on a sa conscience pour soi et qu'on ne doit rien à personne. Cependant, vers la fin du mois de décembre dernier, un samedi soir, sur les 5 heures, les Chevassat allaient se mettre à table quand le brocanteur du quatrième, le père Ravinet, se précipita dans leur loge comme un tourbillon. C'était un homme de taille moyenne, scrupuleusement rasé, dont les petits yeux d'un jaune clair brillaient d'un éclat inquiétant sous d'épais sourcils en broussaille. Bien qu'habitant Paris depuis des années, il était vêtu en monsieur de campagne portant gilet de soie à fleurs voyantes et longue lévite droite à grand collet.
« Vite, Chevassat ! »
s'écria-t-il d'une voix troublée.
« Prenez votre lampe et suivez-moi. Il est arrivé quelque malheur là-haut. »
L'émotion du brocanteur, il passait pour ne se pas émouvoir aisément, devait bien plus que ses paroles effrayer les époux Chevassat.
« Un malheur ? » gémit la femme. « Il ne manquerait plus que cela. Mais enfin, qu'arrive-t-il, cher monsieur Ravinet ? » ?»« Et le sais-je ? Il n'y a qu'un instant, je sortais de chez moi quand j'entends comme le râle d'un agonisant. » Cela venait du cinquième. Naturellement, je monte quelques marches, prêtant l'oreille. Silence complet.